Ce qu'on doit aux Français, nous autres candidats à la présidentielle, c'est de leur présenter un projet.
Oui, la France est de retour.
C'est oser une femme qui tient.
Et il y a parfois des choix importants qu'il faut faire.
Je veux réunir la France dans la justice.
Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
C'est désormais installé notre rendez-vous tous les vendredis, la semaine politique, Paris Match, Europe 1, JDD, avec ce soir Patrick Mahé. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de la rédaction de Paris Match, bonsoir à Robin D'Angelo.
Bonsoir.
Journaliste au service politique du JDD, sachant que le journal du dimanche paraîtra demain, samedi.
Mais sera en vente jusqu'à lundi, normalement.
Voilà, merci pour la précision et tout ça, évidemment, c'est à cause ou grâce au 1er mai. Bonsoir à Louis Dragnel.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Chef du service politique d'Europe 1. C'est amusant car je me souviens encore justement du journal du dimanche, du dimanche dernier, qui disait « c'est demain, donc lundi, c'est demain que tout commence ». Et je crois en effet que
le plus dur commence.
Oui. Et que la semaine écoulée nous a démontré jusqu'à présent qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui nous attendent et que le plus dur commence, comme vous le dites, Robin D'Angelo. Premier sujet, évidemment, ce remaniement interminable. Toujours pas de fumée blanche du côté de Matignon. D'ailleurs, le contraire aurait été étonnant. Mais on sait que le président n'aime pas être sous pression, que de toute façon, ce sera décidé quand lui aura décidé. En attendant, les ministres actuels jouent la montre. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, c'était hier.
Il ne s'agissait pas du dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je le rappelais, s'achève le 14 mai à 0h ou le 13 mai à minuit, selon la manière dont on dit les choses.
Voilà, quant à Clément Beaune, ministre des Affaires européennes, avec les spéculations qu'il y a autour du nom du futur Premier ministre, eh bien lui croit savoir que oui, ce sera une femme.
Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon, mais il ne faut pas résumer l'ensemble de la situation politique au poste de Premier ministre et la composition d'un gouvernement au poste de Premier ministre.
Eh bien voilà, ça c'est très important ces mots qu'il prononce le ministre des Affaires européennes, parce que le plus dur commence, je reprends les mots du JDD, les mots exacts, et qu'est-ce qui se passe? On se focalise sur le nom du Premier ministre, Louis de Ragnel.
Parce qu'en réalité, c'est très important le nom du Premier ministre. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, ça met du temps avec Emmanuel Macron, parce qu'il veut vraiment jusqu'au dernier moment faire le bon choix. On voit que le deuxième tour de cette élection présidentielle a conduit Emmanuel Macron à se tourner vraiment assez à gauche, voire très à gauche, pour essayer de parler aux électeurs de la France insoumise. Et donc la question, c'est où est-ce que Emmanuel Macron met le curseur politique? Et ce curseur politique, il a souvent été mis à droite. Enfin, il n'a été mis d'ailleurs avec que des marqueurs de droite pendant son premier quinquennat, Édouard Philippe, puis Jean Castex. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron va vraiment donner une orientation à gauche? Et c'est pour ça
qu'il a laissé entendre.
Absolument, il a même quasiment dit clairement. Ouais. Et puis donc on sait qu'effectivement il recherche plutôt une femme. Alors après parfois le mouton à cinq pattes est dur à trouver, mais il y a un nom par exemple qui circule beaucoup, qui revient beaucoup, c'est une personne inconnue du grand public qui s'appelle Véronique Bédague, qui était l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, qui était dans les cabinets de Lionel Jospin, qui était au cabinet de plusieurs personnalités de gauche, qui a travaillé avec Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Et donc voilà, ça c'est une indication politique de ce que veut faire Emmanuel Macron. Et donc
ce qu'il a toujours fait, il nous a surpris d'une certaine manière avec Édouard Philippe, ensuite avec Jean Castex.
Et avec des gens qui n'avaient pas de poids politique initialement.
Pas de nom en tout cas, c'était exactement. Pas de brand name. Alors, comme on dit.
Véronique Bédague, vraiment, elle n'est pas connue du tout voilà, du grand public.
Bah, elle va être connue,
elle est connue
si c'est
auditeurs d'Europe 1, puisqu'elle c'est la patronne de Nexity, et elle a été invitée à plusieurs reprises ici même.
Oui, notamment dans La France Bouge. Robin D'Angelo.
Je pense qu'il ne faut aussi pas décorréler cette future nomination de la campagne des législatives aussi. En prenant son temps aussi, il permet de ne pas remettre une pièce dans la machine pour ses opposants, pour voilà, un petit peu exciter le débat.
C'est le contre-pied que joue Emmanuel Macron tout de suite, là maintenant.
Ouais. Exactement, ouais. Et puis après il y a la difficulté aussi de leur campagne législative à eux, où ils sont quand même bien concurrencés et on ne sait pas forcément à quoi va ressembler la structure avec laquelle ils feront campagne. Donc voilà, toutes ces questions aussi expliquent peut-être ce flou et cette attente.
Oui, Patrick Mahé pour Paris Match.
D'abord, comme d'habitude, Emmanuel Macron prend son temps. Il prend toujours son temps. Et donc on se dirige peut-être vers 3 ou 4 scénarii. Le premier, ce serait une personnalité féminine mais technocratique, qui pourrait être Elisabeth Borne, dont on a déjà parlé, c'est pas une nouveauté, on a avancé son nom plusieurs fois, c'est pas nouveau. mais qui correspond bien à vraiment à quelqu'un de confiance pour lui. Deuxièmement, sur le plan féminin, on a avancé des noms plus évasivement, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que d'abord, un, elle est aux États-Unis, à New York, et elle est vraiment très bien installée là-bas. Pourquoi elle viendrait...
Je vais vous dire, il y a des vols quotidiens, mais...
Pourquoi elle viendrait dans une période électorale très, très courte faire une sorte de rustine de remplacement? C'est trop tôt, à mon avis. Elle porte en plus en elle, derrière, les fantômes de l'écotaxe. Ça n'a pas été très réussi, notamment en Bretagne, avec les bonnets rouges, rappelez-vous.
Puis c'est une caution de droite, alors mais qu'on parle...
Mais c'est une caution de droite, voilà. Oui. Alors, sur un plan plus politique, moins technocratique, le nom de Richard Ferrand revient assez fortement. Donc, Richard Ferrand, pourquoi? C'est le grognard du premier jour, en fait. C'est un peu le grognard du premier jour, et de la première heure même. Donc, son nom revient de plus en plus souvent, et on dit actuellement, en ce moment, que Macron chercherait, pour cette période, un profil plus politique que technocratique. Et enfin, bah, y a le dernier point, c'est... Évidemment, avec Emmanuel Macron, bah, ça peut être la surprise. C'est le point peut-être le plus sûr.
Et on en revient à ce que disait Louis. Effectivement, la personne que vous citez est totalement inconnue des écrans radars. Et Elisabeth Borne, on sait que le président n'aime pas les disques rayés. C'est-à-dire que plus on répète le nom d'Elisabeth Borne, et là je viens de le dire deux fois dans une même phrase... Plus cette hypothèse s'éloigne. Enfin,
alors,
je parle sur votre contrôle, Louis Dragnel.
Ce qui se passe, qui est amusant, alors c'est surtout, ça nous amuse, nous, les journalistes politiques, je ne suis pas sûr que ça passionne les Français, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ministres qui nous demandent de surtout pas citer leur nom, parce que, effectivement, vous l'avez un peu dit, avec Emmanuel Macron, plus un nom circule, moins il a de chance d'être choisi à la fin.
On ne va pas dire les autres, alors.
Voilà, mais après, ce n'est pas parce qu'on a évoqué des noms que ce seront forcément, enfin, qu'ils ne seront pas désignés ou choisis par Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne supporte pas qu'on puisse lui donner l'impression de lui mettre la pression, et il ne supporte pas également qu'on le presse à faire ses choix. Il a jusqu'au 13 mai, c'est la date officielle de la fin de son quinquennat, et par expérience, là, pour le coup, de la pratique politique d'Emmanuel Macron, tous ces remaniements ont mis un temps infini. Il a quand même accepté, souvenez-vous, hein, après le départ de Christophe Castaner, de ne plus avoir de ministre de l'Intérieur pendant 3 semaines et demie. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même une éternité pour un ministère du quotidien et de la gestion de crise permanente.
Et alors, on a le nom du Premier ministre, puis après, on a toute une équipe gouvernementale, sachant qu'on est sûr qu'on n'est pas dans une reconduction, on n'est pas dans un renouvellement de bail. C'est-à-dire que les choses ne vont pas être faites, en tout cas si on croit le président, de la même façon. On a, par exemple, une indication, c'est qu'il y aura 3 ministres de l'écologie, c'est-à-dire un Premier ministre vraiment impliqué dans la question écologique et 2 ministres de l'écologie, un pour les territoires et un pour le fonctionnement.
Alors c'est ce qu'il a annoncé, mais sans être très précis sur les périmètres, c'était plutôt une intention. Le Premier ministre, de toute façon, par définition, il est ministre aussi de tous les sujets. Le Premier ministre, quand il s'invite dans un déplacement du ministre de l'Intérieur, c'est lui qui prend la parole, et le ministre de l'Intérieur s'efface au profit du Premier ministre. Donc sur toutes les thématiques, c'est à peu près pareil. Ensuite, la difficulté, c'est qu'il veut montrer, c'est un peu les promesses de tous les présidents quand ils commencent leur mandat, il veut une équipe resserrée, donc pas plus de 15-20 ministres. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il a voulu parler à un électorat extrêmement large, qui va quand même de Éric Woerth ou Guillaume Larrivé aux Républicains à certains électeurs de la France insoumise. Et dans tout ce spectre-là, il faut trouver donc 15-20 personnes grand maximum. Donc ça, c'est difficile, avec un certain nombre de personnes qui sont actuellement ministres, qu'Emmanuel Macron veut reconduire. Et puis, il y a tous ceux que, effectivement, on en a déjà parlé, qu'il ne souhaite pas revoir dans son équipe, soit parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont usés, ou parce que tout simplement Emmanuel Macron considère qu'ils n'ont pas honoré, en tout cas, la mission qu'Emmanuel Macron leur a donnée.
Patrick Mahé, pour Paris
Match. Je rebondis sur cette phrase des ministres qui peuvent être reconduits. Il y en a un, apparemment, qui pourrait être reconduit, mais c'est vrai que c'est pas bien de citer son nom trop souvent.
Ça énerve.
Mais néanmoins, on ne voit pas comment quelqu'un comme Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui est un ministre régalien depuis 10 années quand même, en pleine guerre...
Je devrais demander au réalisateur de mettre un jingle à chaque fois qu'on cite un mot, genre...
En pleine guerre en Ukraine, pourrait sortir du jeu en ce moment. Moi, ça ne me paraît pas possible actuellement, ce genre de ministre. Alors en revanche, il y en a d'autres, évidemment, qui font peut-être des imprudences, qui parlent de 49-3.
Les poids lourds politiques, ceux dont il aura besoin...
Oui.
On les connaît à peu près, hein. Aujourd'hui il y a Gérald Darmanin, Olivier Véran, manifestement Emmanuel Macron l'apprécie plutôt son travail, Gabriel Attal, Donc là, c'est des
il y en a qui tiennent la corde.
Ce sont des quasi-certitudes. Après, pour le reste, ici, il y a aussi Sébastien Lecornu, dont il a apprécié le travail, même si la gestion de l'outre-mer a quand même été compliquée,
oui.
Avec un référendum compliqué en Nouvelle-Calédonie, avec quand même des scènes de violence qui ont eu lieu de manière assez intense ces derniers mois, et puis surtout avec en outre-mer, pour terminer là-dessus, quand même Marine Le Pen, enfin Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête dans
premier tour,
donc quasiment tous les territoires d'outre-mer, et Marine Le Pen. Qui ensuite, au deuxième tour, est arrivé aussi en tête dans beaucoup de territoires d'outre-mer.
Nous sommes dans la semaine politique Europe 1, JDD, Paris Match, comme tous les vendredis. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous. On va peut-être marquer une pause tout d'abord, et puis on va se retrouver dans un petit instant avec d'autres thématiques. On va parler de ces tractations qui continuent, même si elles sont suspendues, on sait qu'elles continuent. À gauche notamment, à tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec les journalistes politiques du JDD de Paris Match et d'Europe 1, Patrick Mahé, directeur général de la rédaction de Paris Match, Robin D'Angelo, journaliste au service politique du journal du dimanche, qui paraîtra donc demain samedi, et Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. La gauche, décomposée façon puzzle, comme on l'a dit ces dernières semaines, tente de se réunir. C'est ce troisième tour qu'on essaye d'impulser, ce qui énervait déjà dimanche soir dernier François Hollande.
La gauche, elle doit se rassembler, ça c'est un principe. Généralement, ça se fait au second tour. Mais il faut qu'il y ait une offre qui soit crédible. Si l'offre n'est pas crédible, il n'y a pas de majorité possible. Je rappelle qu'on ne peut pas se nommer Premier ministre par décret, ça n'existe pas.
Voilà, petite allusion de l'ancien président à Jean-Luc Mélenchon qui appelait évidemment à ce qu'on le désigne Premier ministre. Cette première, j'allais dire, mise en page sur ce chapitre de la gauche qui essaye de se recomposer, elle est importante parce que tout le monde parle du troisième tour et voilà un ancien président qui évidemment a marqué le coup dans l'histoire de la gauche. De toute façon, vous voyez bien que je suis assez vaste sur le sujet, qui revient et qui dit « c'est pas comme ça qu'on fait ». C'est quand même assez étonnant, non ?
C'est vrai que c'est un peu à côté de la plaque
pour
quand
JDD.
On voit évidemment le rapport de force politique au lendemain de cette élection. Et c'est vrai que Mélenchon a un peu les coups des franches et surtout ne veut pas recommettre peut-être ce qui s'est passé en 2017. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'assister plutôt à la fin des gauches irréconciliables, plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que de voir même le PS prêt à faire des inclinaisons programmatiques sur la retraite à 60 ans, peut-être même sur l'Europe, c'est vrai que ça laisse présager peut-être de quelque chose de nouveau et on serait forcément exclu.
En tout cas,
Hollande et tous ses représentants.
J'ai tenu à passer ce sonore parce que, encore une fois, on est dimanche soir, c'est-à-dire que là où les négociations auraient déjà dû commencer, les tractations auraient déjà dû se mettre en place. Vous avez cet ancien président qui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, je vais vous montrer comment on fait et surtout, il n'y aura pas de Mélenchon Premier ministre. En tout cas, on l'a bien compris, c'est la France insoumise qui est à la manœuvre, c'est comme au poker, c'est celui qui a les meilleures cartes qui mène. Et pour Alexis Corbière, invité ce matin d'Europe 1, ça se discute et ça discute sérieusement et c'est bien donc le PS qui écoute ce que dit la France insoumise et non l'inverse.
Le Parti socialiste a répondu au point qui, pour nous, était important pour engager une discussion politique. Nous, on veut pas des choses.
Les points de programme, on parle idées,
on parle projet pour le pays, on parle comment on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent. Le document du Parti socialiste qui dit qu'il est d'accord avec nous pour avancer vers la retraite à 60 ans, c'est formidable pour les gens. Le Parti socialiste qui nous dit ensemble, on peut faire un SMIC à 1400 euros, bravo. Le fait qu'il s'engage avec nous à travailler au rétablissement de l'ISF, une fiscalité plus juste, à aller vers une sixième République, à être vis-à-vis de l'Union européenne, parfois sur certains traités en capacité de non-application. Nous, on appelle ça la désobéissance. Oui. Tout ça montre qu'il y a une volonté politique d'avancer. Ils ont envie de rentrer dans un nouveau cycle.
Voilà, Alexis Corbière, ce matin, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. C'est quoi, là ? C'est la feuille de route qui est dessinée par la France insoumise, Louis de Raguenel.
Non, mais clairement, ce sont eux qui mènent la danse, parce que ce sont eux qui ont fait le plein de voix, à la fois au premier et au second tour. Aujourd'hui, en fait, c'est simplement la confirmation d'une tendance qu'on voit depuis maintenant 2017, c'est que le Parti Socialiste est de plus en plus en train de devenir un parti de supplétif, et même pas, parfois. Quand on voit le rapport de force, et même dans les négociations entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, c'est vrai que ça peut surprendre. Quand on imagine quand même qu'entre 2012 et 2017, c'était le Parti Socialiste qui avait tout. C'était François Hollande, le président de la République. C'est pour ça que je rebondis aussi sur François Hollande qui manque pas de toupet quand il s'oppose. On a l'impression
que ce sonore
qu'il...
est absolument génial.
Non, mais il aurait pu le dire en 2012. En 2012, on aurait pu comprendre. Il y avait de la... il avait du poids et de la légitimité. Ah, ouais. C'est lui qui avait gagné. Mais aujourd'hui, en plus, il y a énormément de gens au Parti socialiste, les cadres, des parlementaires, qui considèrent que François Hollande est à 90% responsable de la situation dans laquelle est le parti aujourd'hui. Ensuite, s'agissant de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon est en train de réaliser son rêve politique. C'est, il a toujours rêvé de ça, c'est-à-dire c'est le vieux rêve aussi un peu d'extrême-gauche trotskiste de fédérer autour de lui tous les courants de gauche. Et ça, c'est, pour le coup, c'est un vrai fait politique nouveau.
Même s'il n'est pas d'accord avec tous les courants de gauche. Loin de là,
non, mais il n'est pas d'accord, mais en même temps, regardez ce que disait Alexis Corbière, il soumet, il l'impose au Parti socialiste de revoir sa doctrine, de revoir un certain nombre de points politiques très importants pour la France insoumise et qui étaient des sujets de discorde avant avec le Parti socialiste. Et uniquement pour survivre, pour sortir un peu la tête de l'eau et trouver de l'oxygène, le Parti socialiste est prêt à enterrer quand même des choses qui étaient vraiment...
Mais les principaux points de discorde, c'est lesquels ?
Déjà, la France insoumise est quand même clairement aujourd'hui pas vraiment un parti de gouvernement. C'est vraiment un parti qui est d'extrême gauche, très radical. Ouais. Donc c'est pas du, philosophiquement, c'est pas du tout la même culture. Quand vous voyez, je sais pas, Valérie Rabault par exemple, qui est la responsable des députés PS à l'Assemblée nationale, elle s'inscrit vraiment dans une logique de gouvernement, d'intelligence parfois dans son travail avec le gouvernement, même si elle est dans l'opposition. Là où quand même une grande partie des parlementaires de la France insoumise, eux, ils souhaitent, ça a été dit, la 6e République. Ils veulent vraiment renverser actuel.
Pardonnez-moi, mais est-ce que la 6e République, ça n'est pas la cerise sur le gâteau ? C'est-à-dire qu'on nous amène ça comme toujours une partition, comme si c'était quelque chose, un rêve, une utopie, mais qui n'arrivera pas.
Juste, et je termine,
c'est juste du packaging.
Non, mais ce qui est incroyable sur la 6e République, c'est que globalement, c'est la 5e République qui permet à Jean-Luc Mélenchon d'arriver aussi fort dans les yeux.
Bien entendu,
de faire
c'est pour ça que
voix.
Je vous pose la question.
Et je me dis, c'est assez étonnant, c'est presque, on peut en sourire. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait souhaiter une 6e République dans la mesure où la 5e, globalement, lui plaît parfaitement ?
Les deux autres, chers amis de la semaine politique, Patrick Mahé.
À ceci près que dans la 5e République, la proportionnelle n'existant pas, le groupe constitué de la France insoumise est quand même un groupe relativement réduit. Alors qu'il pourrait avoir beaucoup plus de députés, vu l'impact qu'il a eu sur les votants. Bon, d'autre part, c'est vrai que si vous l'avez dit vous-même, le PS actuellement ne mène pas le jeu naturellement, mais au ton d'Alexis Corbière, on voit le ton d'Alexis Corbière, c'est le ton d'un vainqueur. Quand il dit, quand on entend parler sur la retraite, sur le SMIC, sur tout ça, et on voit qu'il met pratiquement en dernier wagon le PS. Pourquoi ? Parce que le PS n'est pas seul dans la négociation à gauche. Que va-t-il se passer avec Europe Écologie Les Verts ? Que va-t-il se passer avec le Parti communiste et Fabien Roussel, qui sont tous les deux devant le Parti socialiste.
Le PS est arrivé dernier quand même de tous ces partis qu'on cite.
Oui, et on parle beaucoup du PS pourtant. Oui.
Donc la fumée blanche dont vous parliez tout à l'heure, elle est loin de sortir. À moins que pour le 1er mai, on ait, de ce point de vue-là, gauche, une sorte de divine surprise. Et le 1er mai, c'est très très vite.
Robin d'Angelo pour le JDD.
Il y a quand même aussi une personnalité au PS qui surnage, qui est Carole Delga. Qui est quand même très virulente.
D'Occitanie.
Qui est dans la liste des premiers ministrables. Hein.
Alors voilà, elle a vigoureusement démenti, mais, mais bon, son succès électoral au régional l'a mise vraiment en position de force. Et effectivement, pour le coup, ces personnalités dont pourra pas vraiment se passer, peut-être Mélenchon, vont quand même aussi compliquer pas mal de choses, peut-être sur le point programmatique aussi. Donc là, il y a quand même aussi
c'est
un
le PS de Paris contre le PS incarné dans les régions. En fait.
Exactement. Et ce qu'on a vu aussi au municipal. Et c'est vrai que voilà, il y a avec le score d'Hidalgo, il y a une tentation d'enterrer le PS. Mais c'est vrai que le réseau local reste quand même assez implanté. On peut dire exactement la même chose de LR. Et effectivement, c'est aussi toute la contradiction de notre système électoral actuel entre comme on le disait, une 5e République taillée pour les égaux, des gens comme Mélenchon, comme Le Pen, et à l'inverse, aussi des partis politiques qui se partagent le reste des élections.
Est-ce que ça veut dire, Robin, qu'une fois de plus, tout se décide à Paris et on ne garde pas assez les territoires ?
Sans doute. C'est vrai que ça peut aussi donner cette impression de voir tous ces états-majors discuter entre eux et écartant aussi.
C'est là le défaut peut-être de la 5e République.
C'est une évidence. C'est
Patrick Mahé.
D'abord, la France étant un état jacobin et ultra-jacobin, archi-centralisé, du coup ne distribue pratiquement rien. Et les pouvoirs régionaux sont assez faibles, en fin de compte, vu les moyens financiers dont ils disposent. Puis on le voit même dans les régions. Prenons Marine Le Pen dont vous parliez à l'instant. Son score en Bretagne, pays d'où elle vient, la Trinité-sur-Mer, bah, c'est un score relativement moyen, voire
médiocre.
Pourquoi ? Parce qu'en Bretagne et dans d'autres régions, il y a un fort sentiment d'enracinement régional avec des valeurs qui sont très ancrées. Et du coup, comme elle est, elle, dans un schéma, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, extrêmement jacobin, bah, ça s'annule et finalement, son message ne passe pas. Et on voit que, à part dans la ruralité, pour des raisons différentes, qui sont des raisons souvent de pauvreté, qu'on a vu avec la crise des gilets jaunes, eh bien, ce message-là ne passe pas, c'est assez important. Donc, effectivement, il devrait y avoir davantage de ce qu'on appelle, outre-Manche, une dévolution des pouvoirs dans les régions.
C'est peut-être une exagération, pour rebondir à ce que vous dites, mais c'est vrai que le score, par exemple, de Jean Lassalle au présidentiel, c'était quand même une forme de surprise, finalement, qu'il arrive à monter, j'allais dire, presque si haut. Mais je pense que c'est aussi symptomatique de ce que vous étiez en train d'expliquer. Ouais.
Alors justement, Louis Dragnel, vous voulez réagir aussi là-dessus ?
C'était juste une toute petite chose par rapport à la Ve République. Il y a des espèces d'effets déformants où on se demande un peu d'ailleurs dans quel système on est. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui a fait beaucoup de mal à tous les partis politiques, c'est la fin de ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs le cumul des mandats, qui a décorrélé en fait l'idée qu'un député à l'Assemblée nationale puisse avoir un ancrage local. On a supprimé l'enveloppe parlementaire qui lui permettait d'attribuer, de négocier, d'obtenir des subventions pour un stade de foot, pour des choses, des réalités très concrètes. Ouais. Et moi, je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal en fait, à tous les partis politiques, puisque les habitants des circonscriptions ne s'identifient plus aux députés. Et les députés eux-mêmes ont un sentiment de déclassement. Ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais vous voyez plusieurs...
Non, pourquoi on les a d'ailleurs entendus sur ce sujet du déclassement, les députés.
Oui, c'est, alors, mais
grâce à votre service, d'ailleurs, ici sur Europe 1.
Mais c'est vrai qu'en fait, ils ont du mal à se plaindre parce que souvent, on considère qu'ils sont un peu les nantis du pouvoir, qu'ils ont tout, des privilèges.
Alors, à l'inverse, ils sont menacés.
Mais je pense que voilà, ça a fait beaucoup de mal et je trouve que ce serait une bonne idée de non pas de rétablir le cumul des mandats, mais moi je suis même favorable à ce qu'on dise qu'un parlementaire ne peut pas être élu à l'Assemblée s'il n'a pas un mandat même de conseiller municipal ou
un mandat ancré dans le
ou d'adjoint au maire,
pas forcément dans les territoires, en fait,
il y avait des abus, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque il y a 30 ans on pouvait être président de département, de région, sénateur et quasiment vice-ministre, enfin c'était on pouvait clairement pas tout faire. Mais on est passé, je trouve, dans un extrême inverse où le député en fait n'a plus de prise avec la réalité d'une circonscription. Les habitants ne s'identifient plus à lui, et je pense que ça fait beaucoup de mal.
Je peux ajouter, vous avez cité les conseils départementaux. Un président de conseil départemental aujourd'hui, il inaugure les routes ou il s'occupe des transports scolaires, de fonctions qui auparavant, qui sont moins importantes que celles qui étaient les siennes il y a encore 10 ans.
Bien sûr.
Donc tout ça contribue effectivement à une baisse de cette implantation locale à laquelle les électeurs sont très sensibles.
Une chose est sûre, l'hémicycle ne sera plus du tout le même après le 19 juin prochain. La question c'est qui sera la prochaine force d'opposition ? Est-ce que ça sera la gauche rassemblée ? Est-ce que ça sera le bloc national, pour reprendre le terme utilisé par Éric Zemmour? En tout cas, même si la mayonnaise n'a pas pris entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, il n'est pas impossible qu'on se reparle. Écoutez ce qu'en dit le président par intérim du RN, Jordan Bardella.
Au premier tour, nous on fait le choix de mettre des candidats partout parce que je pense que c'est de respect pour les Français que chaque mouvement politique fasse connaître son projet et ses propositions. Donc au premier tour, chacun fait prévaloir ses différences. En revanche, au second tour, il peut y avoir des accords de désistement qui nous amèneront à prendre nos responsabilités et à soutenir le candidat patriote le mieux placé. Et puis, il pourra y avoir aussi un travail commun à l'Assemblée nationale. Demain, s'il y a des députés reconquête, moi, je pense que sur certains sujets, comme certains députés LR, par exemple, on puisse être amené à travailler sur des sujets concrets.
Robin D'Angelo, pour le JDD, la main est tendue, comme on dit.
Alors oui, bon, je dirais pas ça. Je pense que c'est vraiment une opération de triangulation là, du RN pour essayer d'appuyer sur la tête de Zemmour une dernière fois. Ouais. Évidemment, Jordan Bardella sait très bien qu'il n'y aura pas de candidat reconquête qui arrivera devant des candidats RN. Donc il s'engage strictement à rien en faisant
Comment
ça.
Comment est-ce qu'il peut en être aussi sûr ?
les scores de Zemmour ont tellement été bas partout. Enfin, la seule région où il a réussi à avoir des scores au-dessus de 10%, voilà, c'est tout pour tour méditerranéen. Mais encore, c'est effectivement, et en termes d'inscrits, il va falloir atteindre les 25% pour pouvoir se maintenir au second tour des législatives. Il en est très très loin. C'est même pas une épine dans le pied des Le Penistes dans ce coin-là qui, voilà, ne. Zemmour voulait un petit peu jouer une forme un petit peu de raquette en étant un peu parasite, en parasitant les circos où le RN aurait pu avoir besoin de lui. Mais là, il est dans une situation où même ça, il va avoir du mal à le faire. Et puis, de toute façon, le RN sait très bien que les gens qui votent Zemmour risqueront aussi de se rapatrier vers eux en cas de second tour. Donc, il y a vraiment peu d'intérêt pour eux à jouer ce côté de bloc. Donc, c'est du marketing. C'est aussi ne pas donner l'impression de vouloir tuer un concurrent de la même famille politique. Donc évidemment, ils sont quand même aussi obligés de donner le change et de ne pas être trop agressifs officiellement avec Zemmour.
Quand vous parlez de raquette, il y a des trous dans la raquette, du côté de Reconquête. Mais pour prolonger votre propos, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le RN est arrivé en tête dans plus de 200 circonscriptions sur 577. Donc évidemment, Reconquête derrière, c'est le nain de jardin, quoi. Un peu, c'est difficile.
On en a des punchlines hein, ce soir. Nain de jardin, ça c'est, non, mais c'est dans coup, la boule c'est... de Patrick Mahé. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est derrière cette force, en fait, relativement puissante de ce qu'il appelle lui-même le bloc national. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il est quand même très à la traîne. Mais cela dit, pour autant, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle va viser aux législatives à part d'être réélue et pourrait l'être au premier tour? C'est d'avoir enfin un groupe. En fait, c'est d'avoir enfin un groupe. Et on sait qu'un groupe parlementaire, c'est 15 députés. La France Insoumise en avait 17, 18, je ne sais plus, je crois.
Et le RN en avait moins de 10.
Le RN en avait 7 ou 8. Donc c'est ça ce qu'elle va vouloir faire surtout. Et puis bon, pour cette main tendue dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça a mal commencé le premier jour avec cette phrase que Éric Zemmour avait balancée sur la famille Le Pen qui avait perdu 8 élections de rang, je ne sais plus quoi. C'est pas génial pour entamer une négociation, quoi.
Il y a mieux, ouais. Oui, il y a Hollande à gauche et puis il y a Zemmour sur le bloc national. Mais est-ce qu'il va y avoir un vote contestataire dans ces législatives? Est-ce qu'il va y avoir la même impulsion qu'il y a eu à la présidentielle, Louis de Ragnel?
Alors, un vote contestataire, pardon, ça c'est certain, à peu près certain, parce qu'on voit le poids politique, vous l'avez très bien dit, Patrick Mahé, de Marine Le Pen, qui a quand même gagné dans beaucoup de circonscriptions et puis dans des départements entiers. Ça, c'est un peu la nouveauté, parce que je crois qu'en 2017, elle était en tête seulement, je crois, dans deux départements français. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Ça, ouais.
Et là, elle est en tête dans plus d'une vingtaine de départements. Donc là, pour le coup, ça correspond à une réalité politique. Pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près la même chose avec d'autres paramètres. La question qui se pose maintenant, tout le monde parle beaucoup de la possibilité d'une cohabitation. Moi, je n'y crois pas. Je trouve qu'il y a un immense paradoxe des Français qui, pour beaucoup d'entre eux, peut-être malgré eux, ont quand même élu Emmanuel Macron, qui est arrivé largement en tête du deuxième tour. Et de l'autre côté, on voit des enquêtes d'opinion qui expliquent que les gens veulent imposer une cohabitation.
Gouvernement d'opposition. Est-ce qu'un vote contestataire peut conduire à une cohabitation? Est-ce qu'en gros, finalement, il y a un consensus qui se forme à l'élection présidentielle autour? Voilà. Comment est-ce que vous voulez concilier 70 millions de Français, Pierre, et 48 millions d'électeurs, et ensuite dire, en fait, on va détricoter, casser le château de cartes, et puis on va faire un vote contestataire au législatif?
Je ne dis pas que c'est impossible.
Je ne dis pas que c'est logique.
Il peut se passer plein de choses.
Il doit y avoir une logique. Mais
d'ici au mois de juin, il peut se passer beaucoup de choses.
Comme quoi?
Tout peut évoluer. Emmanuel Macron peut être pris au milieu d'une crise politique, être discrédité, avoir des ministres qu'il a nommés qui commettent des erreurs, des bourdes, des choses qui choquent les Français. Enfin, tout peut se passer. On peut faire la liste, elle est infinie. Ensuite, moi, j'ai quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron va avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis simplement pour terminer sur plus le côté institutionnel, moi je trouverais plutôt sain qu'Emmanuel, et c'est quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, c'est plutôt sain que le président élu ait une majorité ensuite. C'est pour ça d'ailleurs qu'avait été décidé d'aligner les élections législatives sur l'élection présidentielle,
d'inverser le calendrier,
pour permettre au président de la République d'avoir une majorité. Alors on en pense ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, ce serait quand même paradoxal d'avoir ce système institutionnel qui permet au président d'avoir une majorité et d'essayer d'inverser, de prendre le système institutionnel dans l'autre sens pour casser cette logique-là.
Et puis là, on va être dans une configuration qui va un peu se rapprocher des derniers scrutins locaux, que ce soit les régionales, les départementales ou les municipales, avec sans doute une abstention qui sera très faible, enfin une participation qui sera très faible. Et à l'inverse, tous ces partis contestataires qu'on citait ont tous un déficit d'ancrage local assez abyssal, notamment le Rassemblement National, qui va devoir, malgré tout, trouver des candidats partout avec un bon CV, et ça c'est loin d'être gagné pour eux. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a une forme de discussion malgré tout avec Reconquête et même peut-être avec d'autres formations. On parle en ce moment de Charles Millon qui s'active pas mal pour monter un peu un réseau d'élus qui pourrait même proposer.
Ministre de la Défense de Jacques Chirac.
Exactement. Il fut un temps des premiers conseillers régionaux à être élu avec les voix du RN en 97, si je me trompe pas. Mais voilà, donc un peu qui sent bien aussi que le RN a besoin de ces candidats-là. Il ne peut pas non plus faire totalement la fine bouche.
Mais c'est la statue du commandeur qui revient quand même. Quand on vous parle de Charles Millon, c'est...
mais voilà, et ça rebondit aussi sur ce problème de la Ve République entre cette élection très personnalisée qui est la présidentielle et ces législatives
Vous dites le problème de la Ve République. Pourquoi est-ce que vous dites le problème de la Ve République, Robin ?
Effectivement, quand on voit le taux de participation des élections hors la présidentielle, il y a quand même un problème démocratique assez fort. Donc voilà, comment... Après, ça c'est une autre question, mais...
Je pense dans l'autre sens qu'on l'a tellement déréglé que du coup, ça correspond plus aux Français.
Aussi, ouais.
Et je pense que si on revenait à l'esprit initial de la Ve République, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que les Français sont quand même attachés à la figure du président de la République. Alors, ils sont déçus parfois, ils lui en veulent énormément, parce qu'en fait, c'est la personne... pour laquelle ils expriment, c'est aussi l'expression de tous leurs maux, de leurs souffrances et de leurs difficultés. Mais je reste moi convaincu que c'est quand même un système politique qui est sain, mais qui a été tellement détricoté dans tous les sens, tellement modifié, qu'effectivement il y a une question de sens aujourd'hui. Et je termine simplement là-dessus, parce que quel est le modèle qu'on offre en face ? C'est le système de la coalition, et précisément on a créé la Ve République pour éviter tous les travers de la 4e République.
Absolument.
Où il y avait des instabilités gouvernementales permanentes et où c'était ingouvernable, parce que je pense aussi que le système politique dans lequel on vit correspond à notre culture, correspond à notre histoire. Et toutes les personnes qui disent « Regardez en Allemagne, c'est merveilleux, ça fonctionne très bien », je pense que ça correspond aussi à une histoire politique
qui
n'est pas la même que la nôtre. Exactement, ouais. Et vous avez raison.
Enfin, l'Allemagne étant un pays fédéral.
On a dit la même chose au même
vous
moment.
Avez raison.
Ce qui justement modifie quand même pas mal la donne.
De toute façon, on va revenir sur justement Emmanuel Macron, le roi seul. Hein, c'est l'article qu'il y a dans Paris Match, ça sera en dernière partie d'émission. Je voulais quand même qu'on aborde la question de l'Ukraine, parce que pendant qu'on parle, l'escalade continue avec un président russe qui a de nouveau menacé avec l'arme suprême. Le patron de l'ONU, je ne vous l'apprends pas, qui a visité Kiev sous les bombes russes. Certains parlent alors de doigt d'honneur d'ailleurs de Vladimir Poutine, alors qu'Antonio Guterres était sur place. Joe Biden a repris la parole à Washington et répond par l'aide massive en armes et en matériel.
Nous devons envoyer des armes, des financements, des munitions pour nous assurer que le sacrifice des Ukrainiens est un but. Le coût est élevé. Mais il sera encore plus élevé si nous autorisons cette agression. Nous n'attaquons pas la Russie. Nous aidons l'Ukraine à se défendre. Et de la même façon qu'il a décidé de lancer son invasion brutale, Vladimir Poutine pourrait décider de stopper son attaque. L'unité des États-Unis et de leurs partenaires pour aider le peuple ukrainien envoie un message clair à Vladimir Poutine. Vous ne réussirez jamais à dominer l'Ukraine.
Voilà. Et quand on parle de coût, c'est considérable. On est à 33 milliards de dollars. Alors justement, sur cette intervention de Joe Biden, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a eu celle-ci, hein, qui est une intervention, j'allais dire, assez neutre, où on parle de matériel, etc. Il y a eu aussi quelques autres interventions de Joe Biden envers Vladimir Poutine, qui étaient un peu plus musclées. Patrick Mahé.
Oui, on se souvient des mots qu'il a employés sur criminel de guerre, comme enfin cette expression.
Boucher
de Boucha, quoi. Bon, cela dit, nous à Paris Match, on a depuis 12 numéros, par exemple, publié 192 pages en photo et en texte sur la guerre en Ukraine. Et effectivement, nos reporters sur place ont été comme les vôtres, comme les vôtres, ont été témoins quand même de ces destructions et ces attaques massives contre les populations, attaques ciblées, attaques de troupes en déroute par moment. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'expression criminelle de guerre employée par un président des États-Unis, Boucher de Boutcha, ça paraissait tout à fait exagéré, mais on verra ce que plus tard les enquêtes révéleront. Pour l'instant, il faut être encore un peu prudent sur les enquêtes que le TPI va mener. Mais nous sommes avec une équipe en ce moment, d'ailleurs, qui travaille sur place et qui encore va nous rapporter des témoignages dès cette semaine, dès la semaine prochaine. Bon, cela dit, moi, je crois que en dehors, les relations sont extrêmement tendues. On le voit, l'expression doigt d'honneur qu'on a entendue, qui est vraiment doigt d'honneur aujourd'hui même par rapport à l'ONU, c'est quand même inouï d'entendre des choses pareilles.
Dans quel
du
sens
côté français, bah, on ne s'attend pas à des expressions comme celle-là, quand même. Le doigt d'honneur, le boucher de Boutcha, c'est des mots qu'on n'emploie pas dans des termes diplomatiques quand on essaie de négocier.
Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'emploie jamais un mot plus haut que l'autre. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'alignement parfait, symétrique, de la position de l'Union européenne sur celle des États-Unis.
C'est exact.
Et globalement, ce qui est en train de se passer, il y a un sujet macro et un sujet un peu plus micro. Le sujet macro, c'est qu'il y a un durcissement des tensions entre les États-Unis et la Russie, Joe Biden et Vladimir Poutine, et avec un affrontement qui se joue sur notre territoire, le territoire européen. Et la difficulté, c'est quelle est la voie de l'Union européenne, quelle est la voie même de la présidence française de l'Union européenne, parce que là, on regarde un peu passer les balles, à la fois à travers les déclarations, et vous venez de le dire.
On joue de temps en temps aux pompiers de service, c'est-à-dire que Joe Biden, quand il entame le bras de fer avec Vladimir Poutine, tout le monde a peur d'une troisième guerre mondiale, avec l'arme nucléaire au centre. Et donc, du coup, derrière, vous avez quand même des coups de fil, et je parle sous votre contrôle, de la diplomatie française, de la diplomatie allemande, et d'Ursula von der Leyen.
Mais c'est les coups de fil.
Non, mais il y a eu ça par le passé.
C'est vrai, mais les coups de fil, je vous coupe un instant, juste pour dire, le 29 avril, eh bien, il n'y a plus eu de coups de fil entre Emmanuel Macron et le président Poutine depuis le 29 mars. Ça fait exactement un mois. Alors, il va falloir attendre peut-être le début mai, la fête de l'Europe, le 9 mai, ou peut-être Emmanuel Macron va, avec peut-être le chancelier allemand, établir un projet éventuel de voyage à Kiev. Ce soir, normalement, en principe, Macron, président Macron parle à Zelensky. Mais ça fait un mois qu'il n'a pas parlé à Poutine. Donc, vous voyez...
Et après, il y a la question des montants. L'aide militaire américaine en Ukraine, là, la nouvelle enveloppe, c'est 33 milliards de dollars, dont 20 milliards d'aide exclusivement militaire. Le reste, c'est de l'aide économique et humanitaire. Simplement, il y a eu un décompte, par exemple, qui a été fait. Vous savez combien l'Union européenne a apporté d'aide au
Vous
total,
allez me le dire.
Aide humanitaire, 1,5 milliard d'euros. Clairement, le match... nous, on est des tout petits. Vous parliez de nains de jardin. Nous, on est des nains par rapport à ce match qui est en train de se faire. Et progressivement, on voit bien que la position de l'Union européenne est en train d'évoluer. Au début du conflit, la France et l'Allemagne disent « Nous, on ne veut surtout pas être co-belligérants, donc on se contente d'envoyer une aide humanitaire, éventuellement une aide économique. On vient en soutien, on fournit une aide militaire défensive. » Les mots sont très importants. Donc on livre des casques, des gilets pare-balles et quelques armes défensives.
Quelques drones.
Et puis, il y a eu une rupture par rapport à cette position. Ça s'est joué cette semaine. Avec l'Allemagne qui décide d'envoyer des véhicules blindés militaires, là pour le coup offensifs, des véhicules blindés pour détecter les avions de chasse russes. Et puis nous, on envoie nos canons César, qui sont les canons qui avaient été envoyés à Raqqa pour lutter contre l'État islamique. Et donc là, pour le coup, on a complètement changé de posture. On fournit une aide militaire offensive. Et donc c'est vrai que mécaniquement, on est entraîné par... le durcissement des tensions entre Joe Biden et Vladimir Poutine.
Sur le papier, on n'est toujours pas co-belligérants.
Mais dans les faits, c'est de moins. Enfin, si on dit la vérité, Pierre, on est de plus en plus co-belligérants. Notre présence militaire, notre aide est de plus en plus visible. Et Joe Biden, là, pour le coup, c'est un peu Pinocchio là-dessus.
La première à avoir prononcé le mot de co-belligérant, c'était Marine Le Pen, souvenez-vous, dans la campagne.
Ouais, mais il faut aussi faire très attention à ne pas tomber dans ce narratif d'une guerre entre les USA et la Russie, ce qui est aussi tout l'intérêt de la Russie d'alimenter ce storytelling. C'est un régime autocratique russe qui a envahi une démocratie, certes, sans doute très imparfaite, de l'Ukraine.
Bien sûr.
Donc effectivement, alors après que l'Union européenne ne s'implique pas s'implique pas de la même façon que les États-Unis, ça peut être aussi un intérêt de l'Union européenne pour ne pas être co-belligérant comme on l'a dit, et finalement de laisser les États-Unis aussi prendre une part peut-être plus importante. C'est un moyen aussi de se défausser
C'est que nous on parle à 27 et eux ils parlent tout seuls,
évidemment.
Joe Biden, quand il développe 33 milliards de dollars,
c'est pas la même somme d'argent.
C'est sur sa décision quasiment personnelle, sur une réserve du président américain. Nous, quand on débloque des...
Peut-être des échanges avec l'Union européenne à ce sujet. Enfin, il y a peut-être aussi une volonté de l'UE de laisser faire peut-être un peu plus.
Je pense qu'il y a une volonté politique.
En tout cas, c'est une hypothèse qui est intéressante.
C'est une hypothèse qui est intéressante puisque... C'est un problème systémique.
Du coup, d'une certaine manière, on pourrait laisser agir la diplomatie américaine.
On est à J-8, en tout cas, du jour de gloire, entre guillemets, que devrait célébrer Poutine, comme il l'a programmé le 9 mai.
La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.
Ouais. Il lui faut quelque chose. Elle n'est même pas à Marioupol, dont on parle encore du énième couloir humanitaire pour les civils.
18h43, vous êtes dans la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match. Et justement, dans un instant, comme le veut la tradition du vendredi soir, on ouvre Paris Match et on va à la page 44 pour découvrir ce long article de Émilie Lanaise et Bruno Jeudy, Emmanuel Macron, le roi seul. On en parle dans un instant, tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Robin D'Angelo, journaliste politique au Journal du Dimanche, qui paraît donc, je le redis, demain exceptionnellement. Patrick Mahé, directeur général de la rédaction de Paris Match, et le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel. Emmanuel Macron, le roi seul, c'est donc ce long article, Patrick Mahé, sur la réélection d'Emmanuel Macron. Sur quoi vous êtes parti ? Ça a été difficile parce que, d'ailleurs, effectivement, la couverture, on est sur Jacques Perrin, éternel jeune pionnier, hein, puisque c'est la disparition d'un immense acteur français. Et puis, on arrive quand même sur Emmanuel Macron et il a fallu raconter aussi une histoire. Je reprends le terme de storytelling, mon cher Robin, mais Patrick Mahé, effectivement, il a fallu raconter l'histoire de cette réélection.
D'abord, cette couverture que vous évoquiez sur Jacques Perrin, on est très fiers de l'avoir produite. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est les seuls, alors que tous les news magazines, forcément, cette semaine, naturellement, arboraient Emmanuel Macron en couverture. Mais nous, à Paris Match, quand on fait une couverture, quand on veut un document unique sur un phénomène tel que la réélection du président, on veut des documents à nous, originaux, quelque chose qui le justifie. Alors, à l'intérieur, vous avez 12 pages sur cette élection avec beaucoup de photos qui sont très, très intéressantes, qui montrent la proximité du clan Macron.
La famille.
Et ça, le clan, c'est la famille. En revanche, politiquement, nous avons estimé que le titre « Le roi seul » pouvait être un titre qui interpellerait. Pourquoi « Le roi seul » ? Parce qu'en fait, depuis toujours, on sait qu'Emmanuel Macron, et c'est bien avant l'élection, il avance selon son propre plan, à lui. On l'a vu à l'époque où il était ministre de François Hollande, à l'époque où il se frittait même d'ailleurs avec Manuel Valls à l'Assemblée. Il avance seul. Il écoute lui-même d'abord. Je ne dirais pas qu'il n'écoute que lui-même, parce que ce serait restrictif, mais il s'écoute d'abord. Il a ses propres plans. Et en fait, le directeur de campagne, c'est lui. En fait, c'est un directeur de campagne, c'est lui. Et donc, voilà, et on le voit aujourd'hui même. On le voit en ce moment, parce qu'il récidive aujourd'hui même dans les Pyrénées orientales, quand il est en pré-campagne des législatives, on voit qu'il est encore seul. Il n'a pas autour de lui des conseillers en nombre important.
Il y a personne qui l'aide à réfléchir, c'est Alexis Kohler.
Il y a deux personnes, en fait, qui sont assez proches de lui. Alexis Kohler, en effet, le secrétaire général de l'Élysée, ça c'est clair. Vraiment, c'est l'ombre de son ombre. Il est en permanence avec lui. Et c'est aussi Richard Ferrand, que j'évoquais tout à l'heure. Richard Ferrand, que j'évoquais en tant que grenier de la première heure. C'est vraiment une personne qui l'écoute beaucoup. Et autour de lui, les ministres, il faut le savoir, ils l'appellent le chef, carrément, le chef. Eh bien oui, le chef nous a dit, le chef va nous dire si. Le chef nous demande de venir le soir fêter sa réélection. Voilà, alors autour de lui, toutes ces personnes disent en gros que personne ne réfléchit mieux que lui, mieux que le chef, que personne n'analyse mieux la situation que lui, que personne ne tranche mieux que lui et que personne ne manœuvre mieux que lui. Donc évidemment, c'est sûr qu'avec ça, on voit bien l'idée d'une domination personnelle relativement importante.
Mais est-ce qu'on le dit parce qu'on est forcé de le dire, on le dit par complaisance, non, ou on le dit parce que c'est la vérité ?
C'est dit parce que c'est la vérité et c'est même une forme d'admiration. Oui. C'est même une forme d'admiration. Il ne faut pas le nier, cela, de la part de son entourage. C'est pas le chef des Boy Scouts, hein. C'est quelqu'un qui turbine très vite.
Non, quand on dit le chef, d'ailleurs, moi je pense plutôt aux états-majors militaires. On dit toujours
oui,
le chef.
Oui, c'est vrai.
Il y a le culte du chef dans les armées.
Mais on voit bien des exemples de ce roi seul. Quand il prendre court les gens de son entourage, tels que, par exemple, l'annonce de « je supprime la redevance télé », par exemple. Bon, il annonce qu'il supprime la redevance télé. Mais même Gabriel Attal, qui est dans une émission de radio, n'est même pas au courant. Il faut qu'il débriefe. Mais pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est paumé, il est seul. Et quand Emmanuel Macron va au-devant de la population à Denain, quand il va au-devant de la population où d'ailleurs il se fait invectiver, et avec cran d'ailleurs, il fait face, ça, il faut quand même le reconnaître, c'est absolument vrai, il lâche d'un seul coup la retraite, pourquoi pas les 64 ans, mais personne autour de lui.
Derrière,
personne autour de lui n'est
au courant.
Donc il faut désamorcer ou réamorcer.
Ou courir après en disant voilà ce qu'on va proposer.
Donc il y a ce petit côté solo que nous on a voulu souligner. Cette campagne aussi qu'il a faite en 15 jours, à marche forcée sur les antennes, toutes les antennes, jusqu'à YouTube, où il est allé dans une banlieue faire, une émission de radio dans un milieu plutôt de rappeurs, où il a eu plus de 380 000 vues après son passage. Bon, on voit que tout ça, ça se décide seul. Et en fait, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce reportage-là, sujet. Actuellement, pour terminer, on voit bien que déjà, ils surveillent toutes les investitures pour les législatives. Parce qu'il faut les marcheurs, il faut les gens de Bayrou, il faut ceux de Sarkozy, enfin, plusieurs tendances qui font que il faut bien que lui, quelque part, il est l'arbitre suprême.
En tout cas, votre titre laisse aussi entendre que c'est le roi seul et qu'il est seul coupé de la population aussi.
Alors on peut l'interpréter comme cela, mais le fait qu'il aille au contact de la population et qu'il y découvre tardivement ce que les gens, ce que les experts ne lui ont pas forcément dit depuis la crise des Gilets jaunes, qu'il découvre la gravité du mal en profondeur ou des frustrations en profondeur, ça l'a fait quand même pas mal réfléchir.
Louis de Ragnel.
Ah ouais, je trouve que c'est assez intéressant ce titre d'article, parce que ça correspond encore plus à l'histoire de sa réélection. Il est encore plus seul, il est en même temps libéré aussi, parce qu'il ne doit rien à absolument personne. Personne ne l'a clairement aidé à sa réélection. Souvenez-vous, en 2017, il a eu besoin de François Bayrou, qui est arrivé avec le Modem, avec le poids politique du Modem.
On se souvient de ce déjeuner
à l'époque, il lui devait un peu quelque chose. Là, il ne doit rien à François Monsieur Bayrou, Bleu. Il ne doit rien à Nicolas Sarkozy, qui l'a soutenu après le premier tour. Une fois que les LR étaient déjà complètement dévitalisé. Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy n'avait pas soutenu Valérie Pécresse, n'avait rien dit. On se doutait un peu de son choix, mais avait fait 4,7% toute seule. Édouard Philippe ne lui a servi aucunement. Et donc, là, aujourd'hui, et c'est ça, une espèce de jouissance personnelle, son entourage le raconte, là, aujourd'hui, il a vraiment le sentiment d'avoir réussi un truc incroyable. Il a réussi à se faire réélire là où tout le monde disait qu'il était impopulaire et qu'il allait être battu. Il a réussi à faire quelque chose de presque d'historique, quand même, un président sortant qui est réélu hors cohabitation, ça n'est jamais arrivé. Et donc, il y a quand même ce sentiment un peu aussi de toute puissance au soir de l'élection, de la part d'Emmanuel Macron.
Mais ça rejoint le titre du journal du dimanche, le plus dur commence.
C'est
ça.
Et absolument,
Robin Angelo.
Le prix à payer de cette toute-puissance, ça va être aussi un mandat extrêmement compliqué, extrêmement fragmenté, avec des oppositions qui sont assez extrémisées dans leur rapport à la politique.
Il est poussé dans ses retranchements. En fait.
Il est poussé dans ses retranchements et il est seul, surtout.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de déréglé quand même dans le pays. Il y a une victoire très forte d'Emmanuel Macron, avec un pays qui globalement ne va pas bien, avec les trois blocs dont on a beaucoup parlé, le bloc central d'Emmanuel Macron, un bloc d'extrême gauche, un bloc très à droite, et qui tous ces blocs se haïssent. C'est vraiment de la haine, c'est des projets politiques qui n'ont rien à voir.
On en a parlé plusieurs fois dans cette émission.
On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Mais ce n'est pas du tout comme en 2017, quand il y avait l'UMP ou les Républicains avec de l'autre côté la Macronie, ou la Macronie avec le Parti Socialiste, où c'était globalement, les gens pouvaient se parler. Il y avait parfois des accords communs, il y avait des textes sur lesquels ils pouvaient s'entendre. Là, tout est quasiment étanche. Mmh. Et c'est des Frances qui ne se parlent pas. Et d'ailleurs, ça se voit dans la cartographie électorale avec quelque chose de très saillant, très tranché.
Le quatrième bloc étant celui des abstentionnistes.
Vous avez raison.
Qui existe aussi et qui est très important.
Oui, et alors, il faudra combiner tout cela pour les futures législatives avec donc un roi seul, une formation qui est l'AREM, qui est la formation principale, où, d'après ce que je comprends, c'est un crabe.
C'est une grande paella surtout.
Attendez, non, on c'est... va aller sur.
Non, non, mais.
Pardon. On reste bien, dans la. C'est pas l'émission de Laurent Mariotte.
Le champ lexical des fruits de mer. Mais, non, mais, non, non, mais réellement, parce, que, parce qu'en fait, vous avez une majorité. Enfin, Emmanuel Macron a parlé des électeurs de centre-droit de Valérie Pécresse jusqu'à ceux de Jean-Luc Mélenchon. Et la difficulté à laquelle il va être confronté, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la question de la cohérence. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Et vraiment, je pense que ce qui ne va pas être simple, et ce que vous disiez aussi, Patrick Mahé, tout à l'heure, est très symptomatique. Est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est en mesure d'adresser un message universel à tous les Français? L'histoire de la campagne a montré que non. Il est obligé d'aller voir des rappeurs, il est obligé d'aller sur Beurre FM, et puis beaucoup TF1.
Il est obligé ou il veut le faire?
Il veut le faire. C'est ça. Mais parce qu'il sait que quand aujourd'hui, c'est aussi le symptôme de la France d'aujourd'hui, vous essayez de parler à tout le monde, et bien vous n'avez pas tout le monde. Parce qu'il y a plus ce côté universel. Il y a une France qui est tellement fracturée que vous êtes obligé d'aller dans des logiques très affinitaires.
Mais quand on voit un peu comme vous avez parfois. Raison, parce que même quand le dernier déplacement qu'il match. A fait avant le premier tour en Bretagne avec Richard Ferrand, il le fait à Spézet, au cœur du Finistère, le Penarbed, en langue bretonne, qui est un village bretonnant de langue bretonne où franchement, on ne s'attend pas du tout à le voir arriver là. C'est très étonnant. Donc il va même là. C'est-à-dire que Richard Ferrand, qui est dans son sillage, lui dit, la Bretagne, c'est compliqué, mais là, il y a un village gaulois, pratiquement, comme Astérix, c'est Spézet. Et bien, il va à Spézet. Et après, il va à Radio Beurre, ou je ne sais plus laquelle. Non, pas Radio Beurre. Je ne sais plus si c'était comme émission avec les rappeurs, où il fait autant de vues et autant d'audience qu'il a eu. C'est hallucinant. Donc, en fait, c'est du... Il fait même du micro-zoning.
Oui, et puis après, c'est assez intelligent. Il trouve aussi des médias qui parlent aux gens. Enfin, le média rap où il parle, c'est Bouscapé. C'est un média qui est assez référence, on va dire, chez les 18-25 ans. C'est plutôt futé d'aller là-bas. Et quand il va aussi sur Beurre FM, qui est pour le coup un média plus institutionnel, hein, c'est pas du tout un média communautariste ou quoi que ce soit. Il sait très bien aussi où il faut parler sans se retrouver exposé ou marginalisé dans des segments.
Ça m'a étonné quand vous avez parlé, Patrick, de Richard Ferrand, parce que quand j'ai lu l'article de Match, Il est mentionné, le commentaire d'un ministre, il n'est pas assailli de grands sages politiques, s'amuse en écho à un autre ministre, moquant un Richard Ferrand aux ordres et un François Bayrou, rouspétant de n'avoir pas été sollicité pour relire les 24 pages.
Bayrou, on lui a mis sous le nez les 24 pages. Voilà, en fait, il n'a contribué à rien. Ouais. Et c'est tout à fait différent par rapport à l'élection d'il y a 5 ans.
Oui, où là, effectivement, alors on a cité plusieurs... on a cité Alain Minc, on a cité Jacques Attali, on a cité je peux parler de vieux sages, mais en tout cas, une sorte de garde rapprochée qui n'existait plus cette fois-ci. Ben voilà, écoutez, si on en a fini, il n'y a plus qu'à lire effectivement l'excellent article de Bruno Jeudy et d'Émilie Lanez dans Paris Match. Et également, ce beau portrait de Jacques Perrin, éternel jeune pionnier qui, moi, m'a immédiatement donné envie de revoir Le Crabe Tambour.
Enfin, remarquable.
Puisque vous parlez de Parnabed et de...
C'est
de,
un très beau film.
On a l'impression, j'ai l'impression que vous étiez Jacques Dufilho dans Le Crabe Tambour, qui raconte les histoires en pays bigoudène.
Les calvaires.
Mais c'est vrai qu'avec Patrick Mahé, ce que j'aime bien, c'est que la Bretagne est très présente dans vos... On parle beaucoup de Jean-Yves Le Drian.
Ça vous fait plaisir, Rachel.
Moi, ça me fait plaisir, évidemment. Et la Bretagne est très représentée.
Mais Robin, on est un peu en minorité là parmi ces Bretons.
J'aurais pu aussi de Novaya Gazeta, quand même, un scoop dans Paris Match sur Novaya Gazeta. Ça nous ramène à l'Ukraine.
On lira tout ça et on lira le journal du dimanche demain. Demain, avec c'est le journal du samedi et non pas le journal du dimanche.
Un entretien de Jean-Luc Mélenchon demain.
18h57, vous restez avec nous dans un instant. Le journal de 19h de l'excellent Alexandre Lemaire. Et à 19h15, je reçois l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste et président de son nouveau mouvement, Jean-Christophe Cambadélis, le mouvement Nouvelle Société. Restez avec nous sur Europe.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.